Les voix de l'égalité.
Il y a 2 ans, elle nous confiait une parole rare, difficile mais essentielle. Celle d'une femme victime de violence en chemin vers la reconstruction. Aujourd'hui, elle revient non plus seulement pour témoigner, mais pour retransmettre son livre « Quand je serai reine ». C'est un récit d'un combat, mais aussi d'une renaissance. À ses côtés, nous avons le soutien essentiel de ce parcours, la psychologue qui l'a accompagnée pas à pas, qui fait partie également de l'association L'Essence de vie, qui l'a aidé à se relever, à reprendre confiance et à se reconstruire. Cette rencontre est une parole à 3 voix, celle de la survivante, celle de l'accompagnement et celle de la solidarité. Mesdames, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, j'aimerais reprendre les mots que vous avez employés pour me présenter, Marie-Gabrielle, oui. Si vous le voulez bien. Donc sûr. Vous m'avez présenté comme une survivante, mais je me décris surtout aussi comme une combattante. J'ai eu un parcours de vie un peu compliqué qui a traversé un passage de violence intrafamiliale. Comme tous ces chemins compliqués, il faut d'abord les parcourir, les traverser, puis ensuite se relever. J'ai écrit un livre qui a été un livre thérapie pour moi et que je veux surtout utile maintenant pour les autres femmes ou utile pour les personnes qui sont participatives ou proches de femmes victimes ou d'enfants victimes et qui sont susceptibles d'aider les personnes dans ces situations. Ça peut être des professionnels, ça peut être des assistants sociaux, ça peut être des personnes de loi, des personnes de justice, des docteurs également, des psychologues, toutes les personnes susceptibles en fait d'être en contact avec ce problème. C'est une partition à 3 mains. J'aime bien utiliser cette métaphore musicale. On peut dire aussi que c'est une chanson à 3 voix. Le livre est composé de 40 illustrations. Des illustrations qui expliquent des émotions, qui expliquent des situations qui peuvent être traversées par des femmes. Voilà. Il y a le micro de la femme victime et de la femme qui prend conscience aussi. Parce qu'il y a une prise de conscience dans le livre. Il y a le micro de l'association, qui là est une parole d'écoute, de conseil, avec des extraits du code pénal, des extraits de loi, qui peuvent éventuellement renseigner. Hein, on n'est pas toujours au courant de tout. Et puis la 3e voix, c'est la voix d'Audrey, c'est la voix de la psychologue, qui explique les différentes étapes, surtout les émotionnelles en fait, qui explique les émotions qu'on peut ressentir dans certaines situations. C'est un livre qui se lit en plusieurs fois. J'ai eu des témoignages de femmes qui l'ont lu. Alors comme c'est un petit peu lourd, parce qu'il y a quand même pas mal de souffrance dans ce livre. On peut le lire en une fois, on peut avoir envie de le refermer, histoire de digérer.
Oui, vous comprenez que pour certaines femmes, celles surtout qui ont été victimes de violences, oui. C'est difficile pour elles de terminer ce livre.
Hein. Tout à fait. Donc c'est pour ça, je vous dis, on peut le lire en plusieurs fois. Après, c'est un livre qui parle de souffrance, parce que évidemment, c'est des passages de vie qui sont très douloureux, mais il y a aussi de l'espoir, hein, parce qu'à la fin, quand même, on voit la lumière. C'est une femme qui se relève. Et toutes les femmes qui lisent ce livre sont, j'espère, en voie de se relever aussi. C'est vraiment pour aider. Voilà, donc il y a quand même de l'espoir.
Donc l'écriture de ce livre, ça a été une étape de guérison ou plutôt une épreuve supplémentaire ?
Écoutez, très concrètement, je vais vous expliquer comment ce livre est né. C'est ma psychologue, donc Audrey, qui à l'époque m'avait demandé de dessiner la femme que je suis, la femme que j'étais et la femme que je voudrais être. Donc j'ai fait un dessin. Et ce dessin m'a tellement fait du bien parce qu'il m'a permis de renouer aussi avec mes premiers amours qui sont le dessin et l'expression plastique dans différents domaines. Et en fait, je n'ai plus pu m'arrêter. Donc de ce premier dessin est né un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et en fait, je dessine encore. Hein. On s'est dit, ce serait dommage de laisser ces dessins comme ils sont là, parce qu'en fait, bien souvent, on s'aperçoit qu'il y a quand même de nombreux points communs dans les différentes histoires des différentes femmes en termes d'émotions, en termes de parcours, en termes d'état. Donc on s'est dit, on va en faire un livre.
Vous allez continuer à écrire sur ce genre de sujet ?
Je continue de dessiner et de peindre beaucoup. Maintenant, les sujets sont surtout tournés autour de la liberté, de la résilience, de l'égalité homme-femme.
C'est une nouvelle étape cette fois-ci.
Oui, tout à fait. J'ai même changé de médium. Maintenant, je peins à la peinture à la bombe. Mmh. Et j'avais fait aussi un autre livre qui, lui, est resté à l'étape de projet, qui était pour les enfants. Voilà, je voulais expliquer aussi ce que c'était que l'emprise d'une mère dans le couple, mais aussi dans la famille, vous voyez. Donc j'avais beaucoup dessiné comme ça pour les enfants, mais là pour le coup c'est resté dans mon... dans ma besace, je peux me dire.
Si je peux me permettre,
dites-moi.
Vous avez changé. Il y a quelque chose qui a changé. Donc,
c'est vrai,
Audrey, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Le parcours des femmes ou des hommes qui vivent des violences conjugales est très long. On peut se dire que d'aller voir un psy, ça va résoudre les problèmes en très peu de temps, c'est faux. Julien en est la preuve. On s'est rencontrés il y a 7 ans. On a beaucoup travaillé. Je dirais que c'est aussi grâce à son livre. Elle a pu se reconnecter à ses ressources. La difficulté chez les personnes qui vivent des violences, c'est qu'elles n'existent plus. Et elles ne se connectent plus à leurs ressources. Donc moi, en tout cas, mon objectif dans ce livre, dans cet accompagnement thérapeutique avec Julia, ça a été de la reconnecter à ses ressources. Mmh. Et donc c'est là qu'elle a commencé à dessiner. Et en effet, depuis, elle ne s'arrête plus. Parce qu'elle s'est reconnectée à ses ressources et elle a découvert qu'elle en avait d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres. Mmh. Et du coup, elle en est là aujourd'hui. L'association L'Essence de Vie est née il y a 2 ans. Je suis psy depuis 20 ans. J'ai vu beaucoup de personnes sur mon parcours professionnel qui n'avaient pas les moyens de payer des séances de thérapie. J'ai aussi remarqué que le côté corporel a un impact réel sur l'évolution des personnes qui ont vécu des violences, puisque les violences, c'est pas juste dans la tête, mais c'est aussi dans le corps. Donc l'idée m'est venue de monter cet asso pour accueillir des gens qui n'ont pas forcément les moyens et pour travailler en psychocorporel. Donc l'association a 2 ans, nous sommes plusieurs professionnels qui sont formés aux violences et au travail psychocorporel. Donc on a avec nous Ronan Drouin qui est ostéopathe, Magali Brichet-Gamblin, qui est sexothérapeute, et donc moi qui suis formée à le MDR, le FT, l'art-thérapie, plein d'autres choses, voilà.
Vous recevez beaucoup de victimes de violence à l'association?
Alors, on est une petite asso qui fonctionne que avec du mécénat, pour le moment. On a eu l'idée de créer des ateliers de groupe où on reçoit des hommes qui ont été victimes de violence cette année. On a un groupe d'hommes et on a 2 groupes de femmes. Donc, on débute, on a 20aine de personnes là, depuis septembre.
C'est pas facile d'en parler. Comment orienter ces victimes vers vous?
Alors, c'est des patients qu'on connaît. Parce que c'est très difficile de venir dans nos associations quand même quand on est victime. Il y a plein de peurs, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais il y a énormément de peurs. C'est vrai que les gens qui arrivent dans nos ateliers ont déjà commencé à travailler sur eux. Voilà. Après, on aimerait pouvoir recevoir plus de gens, mais il faut plus de moyens et aussi plus d'orientation.
Je sais que c'est un très gros travail. Comment vous faites pour aider ces personnes à se réapproprier leur identité, leur voix et puis leur dignité aussi?
Alors déjà, la première chose à faire, c'est de leur dire qu'on est là. Et de ne pas les juger, c'est-à-dire de ne pas leur dire « mais quand même, tu pourrais le quitter, tu te rends compte de tout ce qui te fait ». Juste de leur dire ce genre de phrase, ça les dévalorise. Et du coup, de nouveau, elles vivent des violences, elles perdent confiance encore plus en elles, et du coup, elles ne parlent plus. Elles ne parlent plus de ce qu'elles vivent. Donc la première chose à faire quand on reçoit ce genre de personnes, c'est de leur dire « ok, vous êtes les bienvenus, et même si vous y retournez, nous on reste là, on vous accompagne et on vous aide ». Déjà, c'est la première chose.
Vous êtes en relation avec les gendarmeries, la police, tout ça?
Alors, on est en train de créer notre réseau, oui, actuellement. Oui. Après, vous avez des personnes qui ne veulent pas porter plainte, et on respecte aussi.
Oui.
Ce n'est pas obligatoire sur le parcours de réparation.
En 2 ans, c'est vrai que c'est court, mais est-ce que vous avez déjà reçu quelqu'un qui a pu, au bout d'un certain temps, aller porter plainte?
Oui, oui, ça m'est déjà arrivé où on a pu ensemble écrire un document qui a été transmis à la police. On a travaillé sur tous les détails, sur tout l'émotionnel, sur tout ce qu'il était important de raconter, parce que vous avez aussi l'amnésie post-traumatique chez les victimes. C'est-à-dire que très souvent, quand on vit un traumatisme, vous avez toute une partie de ce qui s'est passé qui est mis de côté au niveau du cerveau, qui est mis dans la mémoire traumatique et qu'on oublie. Et à force de travailler en thérapie, ça peut remonter, en fait. Et souvent, il y a des éléments hyper importants pour les plaintes qu'on arrive à faire remonter grâce à la thérapie. La mémoire traumatique, ça sert à protéger. Parce que c'est tellement douloureux que du coup, hop, c'est mis dans une case, dans un coffre, et on l'ouvre plus.
Sunshine. Il y a deux ans, on vous appelait Sunshine. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous appeler par votre prénom ou toujours Sunshine ?
Par rapport au parcours que j'ai effectué depuis, je pense qu'on peut me rappeler par mon prénom, oui. Mm-hmm. Oui, on peut m'appeler Julia.
Et vous avez pris un surnom, c'était pour quelque part vous cacher ?
Alors au départ, c'était pour me cacher. C'est toujours un petit peu compliqué quand on a une vie sociale, une vie professionnelle. On n'a pas toujours envie de mettre sur la place publique des choses aussi intimes et douloureuses. Je ne suis pas que femme, je suis aussi maman. Et j'ai deux enfants et je voulais pas non plus qu'ils aient à essuyer des choses au cas où, quoi. Voilà. Mmh. Quand je suis partie, mes deux enfants avaient 2 et 3 ans. Ils étaient tout petits, oui. Je suis clairement partie dans un devoir de protection, hein, envers eux comme moi. Maintenant, ils en ont 9 et 10. C'est pas toujours évident, parce que voilà, ça reste leur papa. Donc c'est vraiment des choses qui sont du quotidien, de l'amour au quotidien, de l'explication à leur niveau. Aujourd'hui, ils connaissent l'existence de ce livre, ils connaissent mes dessins, ils connaissent leur maman. Ils me voient souvent dessiner, ils savent, quand je fais des expositions de peinture dans différents endroits, ils savent que tout de suite c'est autour de la résilience ou de choses comme ça. Donc ils connaissent la situation. Je vois pas l'intérêt de me cacher plus que ça. Et puis bon, voilà, c'est comme ça, hein, chacun son parcours de vie. Ce que je voulais rajouter, si vous le voulez bien, Marie-Gabrielle, c'est que le livre que j'ai fait, au départ, c'était une thérapie donc personnelle. Ça commence comme ça. Et puis, ça finit par vouloir être collectif parce que ça devient vraiment un besoin, c'est nécessaire, en fait. On veut que l'expérience qu'on a vécue, qu'on a traversée, elle soit utile aux autres et que ça reste pas là. C'est un livre qui se veut explicatif. J'aimerais vraiment expliquer l'emprise. Maintenant, évidemment, il n'y a pas de recette, on est tous différents. Mais je voulais aussi guider les femmes, les victimes, dans leur démarche. Donc c'est vraiment un livre qui se veut éclairant, guidant, et j'espère un jour préventif. Je dis j'espère un jour parce que j'ai du mal un peu à le distribuer, hein, il faut l'avouer. C'est un livre préventif parce que en fait j'en ai plus qu'assez de voir des campagnes d'affichage ou des campagnes de sensibilisation contre les violences faites aux femmes ou aux hommes, bon, c'est quand même une minorité des cas, avec des photos qui sont souvent très noires. En fait on est dans le constat. Et une fois que c'est fait, une fois que la violence a été portée, une fois que les violences ont été subies, digérées, qu'elles soient verbales, physiques ou voilà, morales, parce qu'il y a différentes sortes de violences aussi, c'est trop tard en fait. Donc après, c'est à la victime de se relever toute seule avec les gens qui l'aident. Mais moi, ce que je voudrais, c'est faire de la prévention en fait, parce que ce que je m'aperçois aussi dans mon métier d'enseignante, c'est qu'il y a de toutes jeunes femmes, dès la seconde, qui subissent des violences morales, physiques, psychologiques, de la part de leurs conjoints, comme de la part de leurs copains ou avec leur réseau, là, c'est catastrophique. On ne nous apprend pas, nous, en tant qu'enfants, ni en tant que jeunes femmes, on ne nous apprend pas à connaître nos limites. C'est pas dans le programme. Il y a toute la société, il y a l'éducation, etc. Mais ce qu'on est capable d'accepter, ce qu'on est capable d'encaisser ou pas, savoir se positionner dans certaines situations. On a parlé pendant des mois du fameux non. C'est juste des mots comme ça, des phrases. Et je m'aperçois bien que les jeunes femmes, les jeunes filles, les jeunes femmes en construction subissent déjà des violences. Donc moi, je pense que ce livre, le livre que nous avons écrit ensemble, vous allez dire je prêche pour ma paroisse, mais ce livre, il devrait être partout, en fait, dans les salles d'attente des généralistes. Il devrait être aux urgences, il devrait être dans les cabinets d'avocats, il devrait être dans les écoles, dans les infirmeries. Il devrait être partout parce que en fait, on est toutes un jour ou l'autre confrontées, que ce soit de façon morale, verbale, psychologique, sexuelle ou physique, on y à un moment ou un autre de notre vie, je pense.
Je m'attendais vraiment pas à ce retournement de situation, si je peux me permettre. Oui. Selon vous, pourquoi vous avez du mal à distribuer ce livre ?
Tout d'abord, ce livre, il a été édité. En fait, c'est l'association qui nous a recueillis, les enfants et moi, en co-hébergement en mise en sécurité d'extrême urgence, hein, il faut dire les mots. C'est cette association du 95 qui s'appelait Du côté des femmes, qui nous a sauvés, hein, les enfants et moi, qui nous avait dit, bah voilà, on va faire ce livre et on va devenir aussi un petit peu maison d'édition. Et en fait, il s'est passé que, bah, il y a plein d'associations qui ouvrent et qui ferment, celle-ci a fermé. Et du coup, je me suis retrouvée avec tous mes ouvrages sur les bras, j'ai envie de dire, et je n'arrive pas à le distribuer parce que c'est un sujet qui reste encore tabou dans certaines sphères. C'est un sujet qui n'est pas forcément porté par les personnes qui tiennent les manettes. Et donc, je le fais, moi, je le distribue aux personnes à qui il va servir, mais j'arrive pas vraiment à le distribuer comme je le souhaiterais.
Vous faites des conférences, hein ?
On avait fait la course du 39-19. Et donc là, oui, effectivement, j'avais rencontré une jeune femme. On avait parlé éventuellement de conférences.
Vous partagez votre témoignage lors des journées spéciale, journée des droits des femmes.
J'ai fait énormément de démarches, énormément de courriers, énormément de mailing, et je n'ai aucun retour en fait. Et vous savez, la distribution d'un livre, c'est un travail à plein temps, et il faut le dire, moi je suis quand même maman célibataire. J'ai deux enfants de 9 et 10 ans qui me réclament un tout petit peu de temps, et je travaille aussi à plein temps. Je fais le job comme je peux, mais c'est très compliqué.
Et le salon du livre, vous y êtes chaque année ?
Non.
Le livre a paru il y a 2 ans.
Enfin, il a 2 ans, il a un peu plus que ça quand même. Hein. Vous avez eu la gentillesse de me recevoir sur votre plateau il y a 2 ans, mais les dessins, je les ai faits en 2019. Il a été édité en 2021. On va bientôt être en 2026. Donc, ça va faire 5-6 ans. Et je trouve qu'il n'a pas pris une ride, évidemment. Et je pense, sans vouloir me jeter des fleurs, que dans 20 ans, il n'aura toujours pas pris une ride. Il est toujours d'actualité, malheureusement, comme tu dis, Audrey.
Vous avez choisi comme titre pour la pause musicale « Mauvais garçon » de Elena.
Tout à fait.
On va l'écouter.
Cette chanson, je trouve qu'elle me parle beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes chanteuses qui se sont mises à chanter sur ce thème. Et je trouve que c'est important et c'est bien toujours d'en parler, quoi. Il faut en parler, il faut le chanter, il faut le dire sur tous les tons pour essayer de réparer tout ça.
Mauvais garçon me rabaisse, me dit que je suis pas belle comme ça, que je sais rien, qu'il est jamais heureux avec moi. Mauvais garçon dit qu'il m'aime, mais il voudrait tout changer chez moi, jusqu'à ma façon d'être, de sortir et de rire aux éclats. Mauvais garçon me rabâche, tout est de ma faute si je l'écoute. Il veut pas que j'aille en boîte, que je pars, que je danse avec d'autres. Mauvais garçon me dénigre, me donne tous les noms d'oiseaux, mais les oiseaux eux sont libres. Plus son amour est une prison. Mais moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête, on me dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon. Mauvais garçon tient les fils, c'est moi le pantin. Un jour sur deux il est mignon, un jour sur deux il est pire qu'un. Mauvais garçon joue les tours, et moi j'apprends les lois de l'amour. J'y connais rien, et plus il me fait marcher et plus je cours. Mais moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Il faut que j'arrête de voir mauvais garçon. J'ai retrouvé l'amour de moi qui m'attendait loin de ses bras. Maintenant je sais que plus jamais mauvais garçon ne m'éteindra. Mais moi je reste. Pourquoi je reste avec mauvais garçon? Faut que j'arrête, on m'a dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon.
Vous l'avez bien choisi, Julia.
Tout à fait.
Vous l'écoutez en boucle ?
Ah non, non, quand même pas. Non, mais disons que quand je l'ai entendu pour la première fois, je me suis dit, oh, eh ben dis donc, voilà une chanteuse qui a compris beaucoup de choses.
Oui.
Je trouve que c'est bien.
On poursuit avec vous, Audrey. Vous l'avez utilisé, son livre, avec d'autres patients.
Oui, alors moi j'ai commencé à utiliser le livre de Julia d'abord lors des formations que je propose à des bénévoles, à des professionnels, parce que le livre de Julia est très bien fait. Je me souviens d'une bénévole qui m'avait dit « mais en même temps, si cette femme elle reste, c'est parce qu'elle veut bien ». Alors, je me suis dit « waouh, comment je vais lui expliquer ce qu'elle emprise et à quel point c'est compliqué ?» Parce que c'est vraiment important d'expliquer aux gens ce qu'elle emprise pour qu'ils comprennent. Donc j'ai utilisé un des dessins de Julia, un dessin qui représente donc Julia sous forme de marionnette, un peu brisée de partout, avec un masque sur le visage. Et là, cette bénévole m'a dit « ah oui, je pensais pas que c'était ça ». Et puis vous avez un autre dessin aussi où on voit un rat qui vraiment enracine ses griffes dans le bras de cette femme que Julia a dessinée. Et pour moi c'est très 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 parlant en fait. C'est ça crée de l'émotionnel en fait chez les personnes qui ne connaissent pas et même celles qui connaissent. Et il y a une meilleure compréhension par le dessin. Donc je l'utilise beaucoup en formation. Et puis je l'utilise aussi dans sous forme de cartes, Julia m'a fait des cartes plastifiées, donc des dessins de son livre, que j'utilise avec mes patientes pour les aider à prendre conscience de ce qu'elles vivent. Voilà, puisque des fois les mots c'est pas suffisant, on a besoin aussi de visualiser et de sentir dans le corps pour comprendre.
Et les cartes, on peut les retrouver comment? On peut les acheter?
Alors les cartes c'était du homemade, hein. Voilà, donc ce sont mes dessins que je me suis imprimé en format A5 et plastifié avec les moyens du bord, et je les donnais aux thérapeutes qui les utilisaient lors de leurs entretiens avec leurs patientes. Là encore, on te dit toujours pareil, mais j'ai fait énormément de démarches auprès de tous les éditeurs pour pouvoir mettre à bien ce projet, et j'ai pas eu de retour.
Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes?
Écoutez, je sais pas où j'en suis, c'est-à-dire je travaille, mon métier me plaît toujours autant. Oui, j'ai passé un nouveau diplôme récemment, tout à fait. Oui, j'ai toujours été passionnée de couture, en plus du dessin et de la peinture. Et j'ai passé un diplôme pour valider quelques compétences. Donc j'ai passé un CAP de couture. Et mon métier d'enseignante me plaît toujours autant. Et les enfants vont bien. C'est notre vie de famille, hein. Non, ça va. Entre les deux, mon cœur balance, comme on dit. Donc, je mélange en ce moment la couture et la peinture, toujours pour exprimer des choses. Et mais en forme d'ouvrage édité, non, je ne sais pas. Ça reste de l'exposition ou du personnel.
Si on veut vous joindre, acheter votre livre, est-ce que vous pouvez laisser votre adresse email?
Oui, pour acheter ce livre, donc d'une façon très concrète, je le vends 10 €, plus les frais de port, qui sont souvent, qui s'élèvent parfois à 4-5 €, sauf si je les donne en personne, ce qui m'arrive aussi souvent, en région parisienne. Donc c'est le mail, il faut m'écrire à contre-emprise, en un seul mot, contre-emprise@gmail.com. Vous m'expliquez combien d'ouvrages vous voulez, par rapport à l'adresse à laquelle vous êtes, si je peux venir moi, ou si on peut se donner un rendez-vous, et je vous donne les ouvrages.
À travers ce travail associatif, un message fort se dessine. La violence n'a jamais le dernier mot. Mesdames, merci d'être venues au studio d'Alternative FM, et surtout, merci d'avoir rappelé à celles et ceux qui doutent encore qu'ils ou elles ont le droit d'être debout, libres et rois, reines de leur propre vie. Merci.
Merci.
Bien entendu, ceci n'était qu'une expérience sonore. Les voix de l'égalité.